quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, c'est la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir, bonsoir, je suis Damien, vous êtes à l'écoute de L'œil carnivore sur le 105.4 de Radio Panique et autour de la table virtuelle, ce soir, j'ai Baudouin, salut Baudouin.
Hello, hello.
Corentin.
Salut.
Et Fabien, Fabien de Prestart. Salut Fabien.
Salut. Salut.
Et donc, effectivement, Prestart, tu vas nous parler de... ce qu'est cette association, mais avant je vais vous faire un petit teasing de l'émission. Ce soir on va vous parler cinéma avec notamment Le Monde Après Nous, un film qui est sorti sur Netflix le 8 décembre dernier. On va parler de Invincible, la série Invincible qui arrive à sa deuxième saison. On va vous parler aussi de jeux vidéo avec Citizen Sleeper. On va vous parler de films que certains pensent complètement ratés, mais bon, Baudouin s'attache... The Marvels, et on va vous parler aussi du Winter Geek Festival, qui est un festival qui se déroule où ça, Corentin ?
À La Louvière.
À La Louvière, et le 16 et 17, donc quand vous nous écoutez, parce que là on est le 12 décembre, quand vous nous écoutez sur Radio Panique, vous pouvez y aller demain. Le 17, le dimanche, puisque nous aussi, on y sera le dimanche et on essaiera de faire une interview, notamment de Dorothée Pousseau, mais on va voir qui on rencontre et puis on fera quelques interviews qu'on vous ramènera dans notre besace pour les partager avec vous. Voilà, voilà. Et on va commencer cette émission avec toi, Fabien, puisque tu es le représentant ce soir de l'association Prestart. C'est quoi Prestart ? On s'est croisés plusieurs fois déjà.
C'est vrai que j'ai l'impression que vous jouez aux jeux vidéo aussi, donc forcément on s'est croisés. C'est une association de jeux vidéo, hein, Prestart évidemment.
Qui existe depuis combien de temps ?
10 ans maintenant, donc c'est déjà une décennie d'activité virtuelle et matérielle, je veux dire. Donc virtuelle sont des publications sur un site internet, un site de jeux vidéo.
Qui est prestart.be.
Press-start.be. Voilà.
Ok.
Press sans E, évidemment, comme appuyer, hein, comme appuyer sur une manette. Voilà. Et donc, sur ce site-là, on publie des critiques de jeux vidéo, des actus, des dossiers, ce genre de choses, comme un site de jeux vidéo habituel. On s'est mis, évidemment, au fil du temps aussi à YouTube et Twitch, où on publie quand même régulièrement des choses aussi. Ça, c'est donc toute la partie virtuelle. Rédactionnel, et on a aussi une partie événementielle où là on participe à des festivals par exemple qui ont des liens avec le jeu vidéo,
c'est notre plus gros
événement de l'année. Donc il y en a deux sur l'année maintenant, où on a un stand rétro gaming qu'on nous demande d'animer tous les ans et qu'on est très heureux de faire. On fait aussi où on organise aussi des tournois sur ces salons-là. C'est une grosse activité aussi de l'association, des tournois maintenant exclusivement de jeux de combat, de versus fighting. Mais oui, il y a des membres de chez vous qui...
Et on salue Mary Why Not qui nous salue. Donc, un petit coucou.
Hello.
Merci, c'est installe-toi et n'hésite pas à participer à la discussion. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur le 105 de Radio Panique, n'hésitez pas à aller chercher le Twitch de l'œil carnivore. On fait régulièrement des émissions et vous pouvez venir discuter avec nous et échanger vos points de vue sur les films, séries et autres qu'on aborde dans les émissions. Chouette, et je crois d'ailleurs que vous cherchez du monde, c'est ça aussi.
Bien, oui, voilà, on cherche du monde, voilà, on est un petit peu en manque d'effectifs pour le moment et on aimerait bien étendre l'équipe avec d'autres profils aussi, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, vous avez vu l'adresse qui était affichée sur le chat, ou si vous êtes en radio, c'est la page Facebook de Prestart, c'est l'endroit où aller, quoi, Press-Start aussi. Ou alors passer par Radio Panique qui fera suivre. Si ça vous intéresse de parler de jeux vidéo, plutôt exclusivement, je veux dire, sur notre site, on se mêle pas trop à la pop culture comme vous dans tous les domaines, on se limite aux jeux
vidéo. Ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal, voilà.
C'est déjà pas mal, donc on a des choses à traiter aussi. Donc n'hésitez pas si ça vous botte.
Eh bien, le message est passé. Voilà. Bah oui, et puis bah, je pense qu'on fera d'autres choses ensemble hein, par le futur. Il y a sans doute des trucs qu'on va faire. Notamment, vous aimeriez bien lancer un podcast. À une époque, vous faisiez d'ailleurs
une émission
sur Radio Panique aussi. Voilà. Donc voilà, à un moment ou à un autre, on se retrouvera. Et vous aviez participé aussi à Panique sur le Bif, une émission il y a de ça pas mal d'années. très chouette expérience qu'on avait fait sur le Bif. D'ailleurs, je pense qu'on va y retourner cette année, le Bif, hein, les gars.
Oh oui.
Oh oui.
Voilà, il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver là. Voilà,
c'était une bonne édition d'ailleurs l'année dernière.
Ah, cette année, c'était génial. Ouais.
Voilà. Et puis là, on a du meilleur matos, donc on va essayer de vous faire des meilleures vidéos, des meilleures interviews et surtout en meilleure qualité. C'est pas difficile.
Et tout ça du premier coup.
Et tout ça du premier coup, exactement. Ok. Ben moi, je vais vous parler. T'as un petit mot à rajouter sur Prestart ou Fabien?
Moi, non, je pense que c'est bon.
Non, c'est bon.
On a bien présenté de quoi il s'agissait, donc je te laisse
suivre. Ok, et donc je vais vous parler du film Le Monde Après Nous. Alors, hop, je vais aller chercher la vidéo. Évidemment, tout est dérangé dans tous les sens. C'est pas grave.
J'étais sur Internet et je nous ai loué une magnifique maison sur la plage.
Un petit passage.
En réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses.
Oh, la grande classe. Les enfants ont l'air tellement heureux.
Le Wi-Fi fonctionne pas. Prends une batte.
Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans notre maison.
C'est votre maison.
Et voilà, c'est ça le point de départ de l'histoire. En gros, on a... Alors,
comme ça, ça a l'air d'être une comédie, hein, pour l'instant.
Alors, tout à fait, ça a l'air d'être une comédie, mais c'est une comédie qui va tourner... Alors, soyons clairs, on tourne vers du post-apo, voilà, clairement, au fur et à mesure. En gros, donc, c'est un film, comme vous l'avez compris, il y a un couple assez bourgeois new-yorkais qui décide de passer un week-end un peu à l'extérieur de New York. Je crois que c'est Long Island ou un truc dans ce genre-là, hein, cette barre de terre le long de la mer, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il n'y a que des maisons de très, très, très riches. D'ailleurs, ce qu'on voit dans le trailer, c'est vraiment une magnifique maison avec piscine, etc. Voilà. Bah, ils sont beaux, ils sont heureux, tout va bien. C'est le principe de départ. Évidemment, ça va seulement tourner, hein, sinon ça ferait pas un film. On voit d'ailleurs ce couple est joué par Julia Roberts et Ethan Hawke. Julia Roberts, qui est d'ailleurs productrice aussi du film, et qui campe un rôle qui est vraiment pas simple. Elle ressemble presque à un oiseau, comme ça, un espèce d'oiseau de proie pendant ce film. Elle joue quelqu'un qui n'aime pas les gens, en fait.
Intéressant.
Et c'est vraiment pas évident à jouer, et elle le tient très très bien. On a aussi dans les rôles, notamment du propriétaire de la maison, parce qu'en fait, ils sont là tranquilles, et y a le propriétaire de la maison, en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente, qui frappe à la porte le soir et qui leur dit je suis obligé de rentrer chez moi. La question, c'est est-ce qu'ils vont lui ouvrir, est-ce qu'ils vont l'accueillir? Il est avec sa fille en plus. Ils vont se rendre compte qu'il y a des problèmes d'Internet, ils vont se rendre compte qu'il y a toute une série de choses qui est bizarre. En gros, on est dans un film un peu comme dans la lignée des films où on suit un petit groupe alors qu'il se passe un truc très important derrière, un peu comme dans Sign de Night Shyamalan. Shyamalan plutôt, où vraiment on devine qu'il se passe des choses derrière, quoi. Voilà. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais voilà, on est dans cette espèce de huis clos. Et donc, voilà, bah, c'est le. Alors, c'est un film qui a été très mal reçu par toute une partie de ceux qui l'ont vu. Parce que, bah, en fait, il ne va pas aller dans le sens auquel tu crois. Alors, je ne vais pas spoiler, malheureusement, parce que là, il vient de sortir. Si je commence à dire ce qui se passe, c'est quand même problématique. Mais en gros, si vous voulez comprendre le film, écoutez vraiment ce que dit la cadette, parce qu'ils ont deux enfants, ils ont un grand et une plus petite. Écoutez ce qu'elle dit, et en fait, elle dit littéralement ce qu'est le film. Voilà, je peux pas beaucoup en dire plus. En tout cas, regardez-le. C'est un film qui est assez marquant. Derrière moi, je sais pas si vous voyez. Alors, je décris pour ceux qui sont à la radio. Mais il y a une plage avec un bateau gigantesque qui arrive. Bah, c'est un peu le sentiment du film, c'est-à-dire que c'est un pétrolier hein, qu'on voit arriver, et puis bah, il est beaucoup trop proche de la plage, et puis bah, il va pas pouvoir l'éviter. Et qu'est-ce qui va se passer? On est vraiment sur une espèce de menace comme ça qui arrive, et en même temps, à des moments, les personnages qui ont des comportements qui ne sont pas logiques. Alors, ils sont pas logiques parce que, bah, écoutez ce que disent la, ce que dit la petite fille, et vous comprendrez mieux la logique du film justement et pourquoi certains trucs ne semblent pas tomber dans la bonne case. Alors, ce qui est important de savoir quand même, c'est que celui qui réalise ça, c'est Sam Esmail. Sam Esmail, il est connu pour avoir réalisé notamment la série Mr. Robot, une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, et dans lequel aussi, il jouait beaucoup sur ce qui est, ce qui paraît, ce qui est la réalité ou pas, etc. Bah voilà. N'oubliez pas, de toute façon, tout ça, c'est que du film, que des histoires qu'on vous raconte. Voilà.
Malek.
Voilà. En tout cas, il y a Kevin Bacon aussi qui fait un petit rôle dedans, qui vaut le coup. Et qui se pose la question d'ailleurs, qu'est-ce que nous on ferait dans ce genre de situation, hein. Il y a quand même une réflexivité assez importante. Voilà. Aucun de vous, voilà, aucun de vous ne l'a vu, hein, je crois, pour l'instant.
Non.
Bah, je vous le conseille quand même. J'aimerais bien, peut-être que je ferai un petit débrief hors émission, un petit décryptage, en tout cas moi ce que j'en ai compris, pour avoir une discussion avec les autres qui l'ont vu et savoir.
Avec plaisir.
Voilà, en tout cas il laisse pas indifférent. Donc, et bah, il est sur Netflix. On commence à le regarder, vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Voilà, ça mange pas de pain. Et puis, voilà. En tout cas, pour moi, c'est une grosse claque et je porte encore le film. Il y a des films comme ça, hein, qu'on porte en soi pendant quelques jours, qui résonnent comme ça au fur et à mesure des jours, etc. Et moi, c'est typiquement ce qui m'arrive avec ce film. Voilà, voilà. Et on va continuer avec Invincible, avec toi, Corentin, qui nous parle d'Invincible saison 2, qui arrive avec une saison 2.
Voilà, tout à fait. Invincible, pour replacer un petit peu le contexte, c'est une adaptation donc animée produite par Amazon Prime, Prime Vidéo, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit oui, officiellement le dire. Et donc, il y a l'adaptation d'un comics. Ils en sont à 25 tomes déjà, hein, l'air de rien. Ça passe vite. Ouais, tout à fait. Le premier tome est sorti quand même en 2005. Donc voilà, hein, ça commence à avoir une sacrée histoire. Et c'est un comics qui est scénarisé par Robert Kirkham, donc scénariste également de The Walking Dead. Donc on peut s'attendre de sa part à avoir quelque chose d'un petit peu sanguinolent avec des vrais sujets derrière. Et donc en fait, il utilise sa patte pour l'adapter au monde des super-héros. Et donc en gros, le pitch de base, c'est Invincible. Donc ça, c'est son nom de super-héros, qui est son vrai nom, c'est Mark Grayson, pardon, dont le père, en fait, est le plus grand super-héros de la planète.
Nolan.
Voilà, Omni-Man, qu'on a vu là-bas, hein, le barbu, qui est interprété d'ailleurs en VO par
J.K. Simmons,
qui est donc le directeur du Daily Bugle dans Spider-Man. Et donc Invincible va découvrir qu'il a des pouvoirs et on se rend compte qu'en fait tout n'est pas si beau et si lisse. Et donc on a dû attendre, parce que la saison 1 est sortie en 2021, on a dû attendre un peu plus de 2 ans pour avoir la saison 2 et on a eu droit à 4 épisodes. Assez intense, hein. Alors, Baudouin, je sais pas ce que t'en as pensé.
Écoute, ça fait 2 semaines que je regarde Prime Video et je veux savoir quand est-ce que va sortir le 5e. Voilà.
Voilà. Mais alors, l'épisode 1, on recommençait un petit peu en douceur, on avait un truc un petit peu plus lisse. Et plus ça avance, plus ça commence à se complexifier. Et l'épisode 4 se termine vraiment en climax très intense. Et donc, Amazon Prime et Robert Kirkham ont décidé de nous laisser poireauter jusque 2024 avec aucune date de sortie pour la deuxième partie de cette série.
Mais elle est déjà produite ou c'est simplement...
Tout est déjà fait, tout est déjà dans les cartons, mais c'est juste une volonté. Alors en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. On n'a pas forcément les dessous, hein, on ne sait jamais. Mais j'ose espérer quand même qu'après 2 ans et demi, ils n'ont quand même pas fait 4 épisodes et puis qu'ils doivent encore faire le reste. Et en fait, c'est une volonté de laisser un petit peu souffler le public après le gros climax de l'épisode 4. Donc voilà. Et moi, c'est une série vraiment que j'encourage tout le monde à regarder, qu'on aime ou pas l'animé. Si en plus on aime un petit peu les super-héros et avoir une vision un peu différente du monde des super-héros, c'est intéressant. C'est différent de Gen V, c'est différent de The Boys.
C'est pas comparable.
Voilà, ça reste violent, mais ça reste quand même un peu plus pop, un peu plus. Ça reste quand même un peu plus tout public. Je sais pas, il y a un côté parfois un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont vu, mais il y a parfois un côté un peu Dragon Ball dans le côté, il y a des vraies scènes violentes de membres arrachés, des choses comme ça, mais c'est un peu plus sérieux quand même que Dragon Ball. Il y a des sujets de racisme, de discrimination.
Mais ça n'hésite sur aucun détail en fait.
Alors moi, ce qui m'a surpris, moi pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode de la nouvelle saison. Et alors pour ceux qui l'ont pas vu, on va pas spoiler la fin de la première saison, ça serait dommage. Mais en gros, ça nous laissait avec un espèce de pas un climax, mais ok, on pouvait deviner ce qui allait se passer par la suite. En gros. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le premier épisode de la seconde saison, c'est qu'en fait, c'est pas que ça te prend à contre-pied, mais que, ok, ça avance dans une direction auquel tu t'attendais pas forcément. Et tu dis, ah ouais, c'est chouette parce qu'on me fait une nouvelle proposition, c'est intéressant, ok, c'est pas là où je l'attendais, tiens, on me raconte une autre histoire et je suis prêt à la suivre, ça a l'air intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. En tout cas, la suite n'était pas écrite, quoi, je m'y attendais pas.
Alors personnellement, j'ai pas lu les comics.
Oui, c'est ma vraie question. C'est une question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu avais déjà lu ces comics?
Voilà,
Est-ce que tu peux t'éloigner un chouïa de ton micro, s'il te plaît, parce que tu satures un chouïa et je peux rien y faire. Oui, voilà.
Donc, Walking Dead, en revanche, j'avais lu les comics et la série, ils s'en étaient quand même
ils étaient partis très,
très,
très
fort écartés. Le début restait assez, puis ils s'en sont écartés. Ils ont créé des personnages qui n'existaient pas. Ils ont tué des personnages qui devaient pas mourir. Enfin voilà, ils ont vraiment et c'est très volontaire parce que j'avais lu des interviews de Robert Kirkham où il disait c'est des choses qu'on peut faire en animé, en tout cas en live ou quoi que ce soit qu'on pouvait pas faire en écrit et vice versa. Je ne sais pas là si dans le cas où c'est vraiment une transcription finalement de ce qu'il a dessiné en l'animant, je ne sais pas dans quelle mesure il y a.
Alors moi j'ai lu lire les 2 premiers tomes ou le premier tome ou quelque chose et c'était assez proche.
Ok.
Voilà, de la BD. Mais je n'ai pas lu beaucoup, donc, et en plus, ça remonte à loin. Mais on était quand même, il n'y avait pas de grosse trahison. Pour moi, Walking Dead, j'ai pas pu regarder Walking Dead, en fait, la série live, parce que, en fait, je la trouvais beaucoup moins intéressante que le comics. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, résultat des courses, ok, on te met des zombies, ok, c'est horrible les zombies. Sauf que ce qui est intéressant dans la série originale, le comics, c'est que finalement, le danger, c'est les autres. Et, ouais. Et comme ils allaient dans la série live, ils ne pouvaient pas aller aussi loin que la série, que le comics, ça manquait de saveur, on va dire.
Ben oui, écoute, en tout cas, ici, je trouve que, comme tu disais, Baudouin, je suis assez d'accord, ils se mettent pas de restrictions, je pense, dans ce qu'ils racontent, dans ce qui se passe, dans les scènes qui se passent. Le casting
c'est ça qui motive plus à regarder aussi.
Oui, alors parce que en termes d'animation, je trouve pas que ce soit une grande réussite de qualité d'animation. C'est pas un grand renouveau, c'est pas rafraîchissant, c'est pas spécialement fluide, y a rien d'original dans l'animation en tant que telle, mais le scénario, les personnages, les dialogues, le jeu d'acteur, parce qu'on a parlé de J.K. Simons.
Mais il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi Steven Yeun.
Voilà, qui donc joue Glenn dans The Walking Dead.
Il y a aussi Sandra Oh.
Voilà, et on a Zachary Quinto, que j'avais oublié, pour ceux qui se rappellent de lui, c'était Sylar dans Heroes, et c'est Spock dans les Star Trek récents,
de
J.J. Abrams. Aussi,
qui était dans Deadpool 2.
Voilà. Donc voilà, on a un bon casting quand même, et voilà, c'est vraiment une série à ne pas louper.
Et toi, Fabien, t'as regardé un peu Invincible ou est-ce que ça te tente d'abord les histoires de super-héros ou alors t'es un peu hermétique ?
Ben, j'en ai été un peu gavé à cause de Marvel.
Comme beaucoup.
Voilà, c'est dit. Mais contrairement à ce que j'entendais, là, le fait que ce soit un animé, ça m'attirerait peut-être un peu plus que de justement. C'est peut-être le côté trop réel, je ne sais pas te dire. Autre chose des films Marvel qui m'a un peu saoulé, donc là je vais aller voir.
L'histoire c'est bien fait, c'est bien réalisé, l'histoire tient la route. Voilà, en tout cas je te le conseille et je le conseille à tous nos auditeurs. On retrouve Invincible sur Prime, si je ne m'abuse. Il y a aussi un petit épisode bonus entre les deux saisons qui est assez sympa sur un personnage secondaire.
Sur Atom Eve.
Atom Eve. Voilà. En tout cas, chouette. Chouette. Et on attend la suite. J'espère qu'elle sera du même niveau. Voilà. Ouais. Et on va continuer avec toi, Fabien. On va continuer pour Citizen Sleeper, c'est ça ?
C'est ça. Mais, Citizen Sleeper, c'est un jeu qui est sorti en 2022, donc pas si récent que ça. Mais pourquoi en parler maintenant ? Parce que le développeur indépendant vient d'annoncer une traduction française à paraître.
Ouais, super.
Début 2024. Ben voilà, tu es content. Ben moi aussi, je suis content parce que j'avais commencé à jouer à Citizen Sleeper et la langue anglaise originale m'avait un peu rebuté. Pas parce que mon niveau d'anglais est déplorable, mais parce qu'il fallait quand même un niveau très très élevé pour saisir les nuances et surtout pour ingérer énormément de texte. Parce que comme vous voyez ici à l'écran. Je vous l'explique pour la radio, c'est un jeu essentiellement textuel qui est basé sur des dialogues entre les personnages qu'on trouve. Et donc, ne pas saisir les nuances, c'est un peu perdre tout le sel du jeu.
Alors, il y avait eu le même problème avec Disco Elysium aussi, qui était magnifique. Fait, ouais. Mais effectivement, il fallait un bon niveau d'anglais. Et une fois la traduction faite, ça y est, on pouvait y aller.
Et Disco Elysium, c'était pire, c'était sans doute 10 fois plus de lignes de dialogue que celui-ci. C'était vraiment un gros, gros morceau pour les traducteurs, sans doute. Je suis moi-même traducteur professionnel, donc je sais.
Ah oui, puis alors Disco Elysium, dans le genre écriture, ça devait être.
Ça devait pas être du gâteau. Mais ici, peut-être pas non plus. C'est peut-être pas du gâteau non plus, parce que je vous dis, c'est très, très, très écrit dans la nuance. Et en gros, le système de jeu, c'est un jeu de rôle et surtout de survie quotidienne, de gestion du quotidien. Donc chaque jour constitue en gros une nouvelle partie. Quoi. Disons, on va devoir faire plusieurs actions pendant cette journée-là. On dispose en début de journée de dés qui sont achetés aléatoirement et qui nous permettent de faire différentes actions. Donc, l'aspect survie, c'est par exemple aller acheter à manger, tout simplement, pour au début continuer à survivre basiquement, quoi, je veux dire. Et on peut aussi dépenser ces dés-là pour aller en gros poursuivre des quêtes avec des personnages qui se trouvent dans une station spatiale. Je vais y revenir tout de suite, mais bon, on peut aller, augmenter des jauges de progression de quête, comme ça, ou rencontrer des personnages, arriver à mieux les connaître. Il y a quelque chose de très humain aussi dans le jeu, de très humain, et ça, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que notre personnage, on le découvre à partir d'un moment où il s'est échappé d'une corporation qui possédait son corps, littéralement, donc lui... En gros, c'est ce qu'on appelle un sleeper. Donc, Citizen Sleeper, lui, on joue un sleeper. C'est quoi un slipper? Ben, c'est une entité synthétique, un corps synthétique qui a été, en gros, dans laquelle on a chargé une conscience humaine. Donc, c'est un être doté de conscience, mais robotique, quoi, disons, voilà. Et donc, il appartient à sa corporation, qui aussi joue un jeu un peu sale avec ces personnages-là, puisqu'ils les font travailler, et en même temps, ils sont garants de leur survie grâce à un médicament qui permet de tenir ces corps synthétiques en vie. Et si on se barre de la corporation, eh bien débrouillons-nous. Et ici, justement, on va devoir se débrouiller dans une station qui a été abandonnée des autorités. Donc, c'est un peu un monde à part qui s'offre à nous.
C'est une zone franche, quoi. On...
Pardon ?
C'est une zone franche.
Mais oui, tout à fait. Et il y a toutes sortes de comme on peut l'imaginer, toutes sortes de personnages qui évoluent dans ce milieu-là. Donc, par exemple, des ferrailleurs... avec lesquels on peut faire du commerce ou tout simplement le mec qui vend des ramen dans le petit bistrot au coin. Donc on va apprendre à connaître les personnages. Comme je disais, il y a quelque chose de très humain dans le jeu, et c'est vraiment la particularité peut-être que je vais mettre en évidence. Donc c'est un univers cyberpunk, très clairement, presque post-apocalyptique, comme on disait. C'est le capitalisme poussé à l'extrême, quoi, disons, voilà, où on est arrivé...
Bah, c'est le principe du cyberpunk, hein. C'est ça, en fait. Voilà, hein, c'est ça. Les entreprises ont pris le pouvoir.
Exactement, c'est ça. Avec aussi des implants bioniques, ce genre de choses. Voilà, c'est... Et malgré cela, donc malgré le marasme ambiant, quoi, disons, les personnages, et notre personnage, on peut choisir de faire ça aussi, et donc le jeu incite plus ou moins à ça, va nouer vraiment des relations amicales avec les autres habitants de la station, donc qui sont là, en gros, qui essayent de se démerder dans le monde qui leur est offert. Et c'est pas facile, et donc il y a de l'entraide qui essaye de se mettre en route comme ça. Et il y a beaucoup, donc, beaucoup de bienveillance dans le jeu, vraiment, beaucoup d'espoir aussi qui rejaillit de tout ça. C'est assez inattendu si on pense aller vers un jeu cyberpunk de base, où là il faut tirer sur tout le monde et où tout le monde est un salopard, en fait, hein, c'est souvent comme ça. Ici, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui vivent leur vie, quoi, disons, qui essayent de survivre dans ce qu'on leur propose comme monde, et qui essayent de se dépatouiller avec ça. Je finirai juste en disant que c'est un jeu textuel en grande partie, mais qui est aussi beaucoup aidé par des illustrations.
Oui, c'est très très beau. Hein.
Ouais. C'est très joli. Ça ajoute beaucoup, vraiment. C'est des illustrations, vraiment, c'est pas animé. C'est des dessins purs, dessins fixes, qui sont dessinés par un auteur de BD qui s'appelle Guillaume Saint-Gelin. Il est français, et il a sorti récemment, je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose de lui, peut-être que la BD Frontier, ça veut dire quelque chose, ou PTSD, non ?
C'est deux BD qui étaient sorties. Chose, oui.
Ouais, elles sont sorties chez Ankama il n'y a pas si longtemps ça. Frontier, elle est de cette année-ci. Et c'est un peu rigolo parce que donc il a participé à la création de Citizen Sleeper pendant qu'il était déjà en train d'écrire Frontier. Et on retrouve vraiment cette envie d'aller vers de la science-fiction très humaine, à taille humaine, et où les personnages essayent vraiment de survivre dans un monde qui leur veut du mal. Et eux, leur but, c'est de continuer, excusez-moi, de continuer à vivre dans de bonnes dispositions, quoi, disons, avec de bons sentiments. Pour.
De toute façon, on en a besoin. On est des êtres humains et on a besoin de. En fait, on est un animal social. On est un animal qui a finalement vraiment besoin d'humains. D'ailleurs, si on n'a pas d'humains autour de soi, alors il y a quelques misanthropes, on est d'accord, mais on a besoin de ce contact d'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui rend la vie magnifique. Voilà. Et ben, en tout cas, tu m'as donné envie d'y jouer. Donc,
je vous conseille d'y jouer et de lire les BD. Ouais.
Vraiment
le coup, si vous voulez.
Ouais. Je ferai peut-être un petit stream dessus, d'ailleurs.
Attends la traduction.
C'est quand alors ? C'est quand la traduction ?
C'est début 2024. C'est pas encore.
Ah, d'accord.
Encore, okay. Mais comme il y avait énormément de gens qui attendaient cette traduction-là, ça fait plaisir. Et une suite du jeu a déjà été annoncée, je l'espère, avec parfait. Une traduction directement.
Voilà, j'en profite pour dire que je stream régulièrement d'ailleurs, donc si pour l'instant je suis sur le jeu Mechabellum, je ne sais pas si tu connais, qui est un jeu, on va dire, stratégique, où on place ses pions et on lance la bataille, en gros. Et je stream aussi Wartell, je ne sais pas si tu vois, Wartells, qui est un jeu français. Et c'est un jeu de rôle où on joue une bande de mercenaires et on se balade et voilà, il y a une aventure qui se fait. Et d'ailleurs, c'est des Français qui font le jeu. Et bah, je compte bien, un de ces quatre, aller toquer à leur porte une fois que j'aurai bien avancé dans le jeu pour faire un petit interview. Parce qu'il y a plein de questions que j'ai à leur poser, notamment au niveau de comment on crée un jeu de ce style-là. Voilà, j'ai plein de questions qui viennent.
Juste une petite aparté pour Citizen Sleeper, il est gratuit sur le Game Pass pour ceux qui sont abonnés.
Oui, Game Pass, Xbox et PC d'ailleurs.
Ouais. Voilà, Xbox et PC, mais pas sur PlayStation.
Oui, voilà, ça c'est la guéguerre.
Il n'y est pas.
Ah, il est sur Switch aussi, donc je pensais
qu'il est sur Switch.
Bah voilà.
Tant pis.
Mais tant pis, voilà. Tant pis. Eh bien, merci Fabien. Merci beaucoup de cette découverte et je pense que voilà, je vais y retourner sur ce jeu. Je l'avais vu tourner et puis j'avais pas osé m'y mettre, donc ça sera parfait. Et je propose de faire une petite pause musicale. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Alors c'est un groupe. Alors est-ce que vous connaissez Atta? Alors je vais évidemment mal le prononcer. Déjà je suis nul pour les prononciations, mais alors là ça atteint. Atarashi Gakko, ça vous dit quelque chose?
Non.
Non.
Alors, comme le nom l'indique, c'est japonais. C'est un groupe de filles. Alors, c'est un groupe de filles...
C'est de la K-pop, quoi.
Alors non, c'est pas de la K-pop. Et ce qui est alors, un... Déjà, bah non, parce que déjà, c'est japonais. Japon, hein. C'est déjà, ouais, quand tu vois le rapport Japon-Corée. Mais surtout, ce qui se passe, c'est un groupe de filles dont la logique, d'après ce que j'ai compris, parce que voilà, il y a finalement peu de documents en français. Donc je suis allé passer par des trucs en anglais qui eux-mêmes parlent le truc en japonais, donc voilà. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est des filles qui... l'idée, c'est de se rebeller contre la normalisation de la société au Japon. Et voilà, et de pouvoir s'exprimer autrement. Alors, elles font ça en étant habillées en écolière, quand même, faut le dire.
C'est la base.
C'est la base. C'est des vidéos qui font... alors, je sais pas, celle que je vais vous passer, elle est sortie le 20 et ils sont déjà à 6 millions wow. de vues. Non, 4 millions 9. Non, c'est un autre. Mais c'est déjà pas mal. Ils ont des fans. Pareil, alors, ils font des chorégraphies de fou. D'ailleurs, sur leur site, sur leur chaîne YouTube, on peut revoir les chorégraphies. Elles les font de manière séparée par rapport au clip. Et donc, ceux qui veulent faire les chorés, ils peuvent les apprendre. voilà. OK, on se retrouve juste après. Donc là, je vous passe Tokyo Calling. C'est un morceau qui envoie du bois. Et puis, on se retrouve juste après.
Na na na.
voilà, lourd. Voilà. Ça va, vous avez survécu?
Ah, moi, j'ai bien aimé, là.
J'aime bien aussi, moi.
Ouais, ouais. Bah, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je sais pas quel algorithme m'a refilé ce truc-là. Alors, il y a du Keiju, etc. Donc, pour ceux qui ont eu que l'audio, en gros, le clip, elle danse au milieu de la ville. À la manière des films de monstres géants japonais, quelque part, hein, y a de ça. On les voit aussi dans des situations qui sont on va dire, de filles normales, voilà, et qui voient une espèce de lumière, et alors, à ce moment-là, elles peuvent devenir géantes, et voilà. Voilà, ça utilise tout un imaginaire japonais, mais en tout cas, il y a plein... Alors, le groupe date de 2015, donc il y a de quoi faire, il y a plein de choses, ça va dans tous les styles, du plus ou moins kitsch, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et j'étais content de le partager avec vous.
Ah, j'ai déjà partagé sur mon profil, c'est une série, moi j'adore.
Voilà, voilà, donc ça s'appelle Atarashi Gakko. Et le morceau était Tokyo Calling. Calling, plutôt. Et est-ce que c'est du London Calling? Et on va continuer avec toi, Baudouin, avec The Marvels.
Ah ouais, The Marvels.
The Marvels. Qui est une histoire de nana.
Ouais, c'est le 33e film, quand même, du MCU, hein, comme on l'appelle. Hein. Donc, troisième film de la phase 5. Donc, il met en scène Brie Larson en tant que Captain Marvels, Iman Vellani, qu'on a vu dans Miss Marvel, la première saison que je vous conseille aussi, qui est très très sympa, et aussi Theona Paris dans le rôle de Monica Rambeau, donc qui fait suite à WandaVision. Bon, je vous dis pas mal de trucs aussi. Donc là, ils ont fait un petit duo, un trio ensemble, ah, sans oublier le chat Goose, aussi sans oublier. Alors, à la base, synopsis, elle enquête sur un trou de ver lié à l'Empire Kree, et les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan et de Carol Danvers. On voit ça à la fin de la première saison, d'ailleurs, de Miss Marvel, et le trio fait équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs. Alors, si vous vous rappelez bien, ceux qui ont vu Captain Marvel 1, donc c'était suite à la destruction de l'intelligence artificielle que dirigeait l'Empire Kree en 95. Donc, ouais, il faut suivre, parce que quand même, pas mal de trucs. Et donc, les Kree sont rentrés en guerre civile, hein, ce qui a, qui a provoqué l'effondrement de la planète Alla, qui est leur capitale, qui ne possède plus d'eau ni d'air respirable. Donc, en gros, c'est un peu la faute de Captain Marvel, parce qu'à l'époque, c'est l'intelligence suprême qui lui avait dit d'aller détruire le peuple de Alla. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Pour 97 minutes, c'est très très bien. Il y a de l'action, il n'y a pas trop de temps mort. Et 97 minutes, c'est amplement suffisant. L'humour est là, certes. La méchante, évidemment, ça reste une méchante. Mais je vais dire que c'était louable ce qu'elle voulait faire, parce que c'était quand même sauver son peuple. Donc j'espère que je ne spoil pas le film. Donc voilà. Alors, je voulais aussi dire quand même quelques petites incohérences pour ceux qui ont vu Secret Wars. Nick Fury s'en va hors de la Terre, accompagné de sa femme, qu'on ne voit pas, évidemment. Ensuite, la grande statue céleste qui est dans l'océan Pacifique depuis...
les Eternals.
Depuis les Eternals, donc ça fait quand même 3 ans que c'est là. En théorie, le Sword, enfin, voilà, vu que le Shield n'existe plus, doit quand même s'occuper de ça. Et puis, autre chose, qui est le président des États-Unis, finalement.
J'ai rien compris à ton histoire, là.
oui, parce que je reviens dans un autre film, étant donné que maintenant, c'est Harrison Ford qui va reprendre le rôle du président des États-Unis. Eh bien, dans Falcon et Winter Soldier, non, dans Secret Wars, excuse-moi, ben, le président des États-Unis, ben, c'est une autre personne. Et Marvel, en fait, dans le nouveau Captain America qui va sortir, ben, c'est déjà le général Ross qui est président. Donc voilà, c'est un petit problème.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire, il n'est pas président, c'est le général Ross qui va interpréter, c'est ça?
Ah ouais, c'est ça.
Suite au décès de celui qui l'a interprété dans les précédents.
Ma question, qui est une question basique, mais Ok, je me suis pas tapé toutes les séries, je me suis pas tapé tous les films, je me suis pas de machin. Est-ce que ça reste un bon film, un film que je peux regarder comme ça, en me disant tiens, je vais y aller avec ma fille qui a rien regardé non plus.
Rien que pour Miss Marvel parce qu'elle est très attachante. Oui.
Alors Miss Marvel était une très chouette série d'ailleurs, hein, et justement ouais. Pour une fois assez inventive graphiquement, il y avait des trucs très sympas. Mais donc, est-ce que ça reste un bon film? Parce que c'est la vraie question.
Ça reste d'accord, un très bon
film. Pour les fans, c'est comme un épisode de série, tu le bouffes quand même parce que t'as envie de savoir la suite.
Ouais, voilà.
Mais est-ce
après,
que
les moments où elle change de lieu, c'est quand même sont quand même très très intéressants parce qu'à un moment, elles vont devoir se synchroniser et comprendre pourquoi elle change de lieu.
Alors moi, je serais plus nuancé sur le fait de si t'as pas tout vu, tu peux aller le regarder. Parce que c'est quand même entre Kamala, entre Rambo, entre Captain Marvel, entre Samuel Jackson, les cris.
Ça fait beaucoup.
Il faut avoir tout vu depuis les 15 dernières années pour tout comprendre. Tu peux le voir, mais tu vas comprendre, enfin, tu vas saisir que la moitié du film. Vraiment saisir.
Oui, mais à la limite, bon, ça, c'est pas très grave. Est-ce que c'est un bon film? Parce que finalement, moi, c'est la vraie question, tu vois, derrière. Parce que moi, c'est vraiment le problème que je peux avoir avec, avec on va dire, la production super-héros de manière générale. Finalement, les bons films, les trucs où je me suis dit, ah tiens, j'ai vu un truc chouette, peu importe finalement, parce que. Soyons clairs, moi, je ne suis pas un fanatique des super-héros dans le sens où je ne connais pas... je ne sais pas, tu parlais de... comment ça s'appelle Endgame ou un truc genre là. Moi, Thanos, tout ça, j'y connaissais absolument rien, etc. Et je t'avoue que je me suis fait chier comme un rat mort dans Endgame. Hein. Donc, parce que c'est...
Ouais, mais c'est plus divertissant, bon, c'est plus divertissant qu'un Endgame. Hein. Enfin, c'est plus divertissant ouais, dans voilà. Le sens où c'est très pop, c'est très machin. Aller voir avec ta fille, pas de souci. Il y a une épouvantable scène qui m'a fait, j'ai failli sortir de la salle tellement c'était horrible. La scène de comédie musicale. Quel enfer, ça dure beaucoup trop longtemps. En fait, il y a un moment, c'est pas du spoil, hein, parce que c'est pas non plus un truc décisif, mais ils arrivent dans une planète où les gens communiquent en chanson. Et donc, ils doivent tout faire en chant et en danse. C'est marrant. 30 secondes, une minute peut-être, une minute 30 maximum, mais ça dure, et c'est appuyé, et c'est lourd. Et en fait, moi, c'est un problème que j'ai dans... Franchement, j'ai passé un bon moment, c'était cool globalement, mais toutes leurs vannes, il faut qu'ils appuient ouais. Sur les vannes, et qu'ils appuient dessus, et qu'ils appuient, en espérant qu'au bout de la 10e fois, ils refont la vanne, quelqu'un va rigoler.
C'est un peu le problème de Marvel.
C'est fun. Mais après, ma question, je sais pas, Baudouin, vu que toi, tu as l'air plutôt positif par rapport au film, est-ce que tu n'es pas positif parce qu'on a tellement eu de la merde dans cette dernière phase que du coup, tu dis, oh, allez, c'est bon, on accepte.
Écoute, hier, je l'ai regardé en train de me dire, bon, allez, je tente le coup. J'ai bien été diverti. Voilà, je dirais ça. Bon, la scène des chats était géniale, évidemment. J'adore les chats. Mais surtout la scène post-crédit qui était très très importante.
Rien
alors
que
là, j'ai eu de ces hype. Wow. J'ai vu la bête, désolé.
Et toi, Fabien, t'en es où là-dessus? Parce que tu disais tout à l'heure.
Je suis nulle part. Comme je disais, là, j'ai lâché les super-héros. Bah, j'ai gardé Batman et je crois que j'ai lâché tous les autres. Parce que là, c'est. Mais non, en fait, même, c'est con à dire.
Non, vas-y, mais j'ai un truc à dire à propos de Batman, d'ailleurs, mais vas-y.
Non, mais j'ai l'impression que même sans les voir, bah, ça me gave quand même qu'il y en ait tellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux, dire. Que, comme tu disais, voilà, si je me dis, bah, allez, si maintenant, ah, bah, j'irais bien aller voir un film, bah, je vais rien comprendre parce qu'il y en a eu 1000 avant. Voilà, donc j'ai l'impression que là, j'ai perdu le train pour de bon.
Mais là, ouais, honnêtement, il aurait fallu voir Captain Marvel 1, il aurait fallu voir Miss Marvel, ensuite il aurait fallu voir WandaVision. Ça fait pas mal, quoi, pour juste un film et tout comprendre, quoi.
Dans cette optique-là, alors, c'est quoi la plus-value par rapport à un épisode de série, quoi, disons, vu que tout se tient, quoi, disons.
Mais en fait, je pense que, c'est vraiment mon point de vue, mais en fait, ce qu'ils ont construit dans la phase 1, la phase 2, c'était des films solo pour présenter, prendre le temps de présenter un nouveau personnage. Et tous ces personnages ont mené à Endgame, Infinity War, les Avengers, etc. Les Avengers, c'est fini. On sait ce qui s'est passé. Ils sont finis. Ils sont partis à la retraite. Ils sont morts. C'est fini. Les acteurs ont clôturé leur contrat. Il y a eu des rumeurs disant que Downey Jr. allait revenir. Ça a été tout à fait débunké immédiatement par Kevin Feige. Donc voilà. Et donc là, maintenant, ils doivent réussir à se recréer un nouvel univers avec des nouveaux personnages forts. Et donc, ils le font au travers des séries en espérant que du coup, The Marvels soit un mini Avenger où on pourrait regrouper ces différents personnages qu'ils ont construit depuis quelques années. Mais force est de constater que ça marche pas autant qu'avec un Iron Man, un Hulk, un Hawkeye et un Captain America. Elles ont pas le charisme nécessaire.
Voilà.
Et même les méchants, tu parlais de la méchante, elle est méchante. C'est une méchante, c'est vraiment la méchante lambda oubliable. Hein. J'ai oublié son nom.
Oui, moi aussi, d'ailleurs.
Voilà.
Joué par Zoé Ashton.
Bon, alors, si vous voulez voir de la bonne, du bon super-héros, vous pouvez vous tourner vers Batman, qui, pour moi, est le meilleur super-héros, pas parce que c'est un vigilante de droite, mais parce qu'il a les meilleurs méchants. Batman, ouais. C'est lui qui a les meilleurs méchants, et de loin. Et donc, il y a c'est sur Netflix, hein, je crois.
Netflix, oui.
Il y a la série des années 90, Batman. Ah ouais,
la série animée.
C'est juste.
La série animée que vous pouvez regarder avec vos enfants, s'il vous faut une excuse. Sinon, vous les regardez.
J'ai pas d'enfants mais... et j'ai pas besoin d'excuses.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, et là, on a de la bonne cam.
Et ouais. D'ailleurs, il y a, j'ai pas encore regardé, mais il y a les aventures du jeune Batman ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça qui est sur Netflix. Hein,
qui est sur Netflix.
Je l'ai vu passer. Je dirais que en conclusion, c'est un chouette film familial si tu as vu tous les films Marvel.
D'accord, ça fait un beau. Comment on appelle ça déjà? Un truc nécessaire, quoi.
Voilà. 33 ouais. films à voir, à regarder, quoi.
D'accord.
Et, okay. Et les séries.
Ah oui, j'ai tout mis dedans. Hein. J'ai mis 33.
Merci Baudouin pour The Marvels. Moi, je pense qu'un de ces quatre, je tomberai dessus. Je le regarderai dans l'avion en dilettante, j'en sais rien.
Par exemple.
Ok. On va pouvoir continuer avec le Winter Geek Festival qui se situe où ça, Corentin?
Donc le Winter Geek Festival, c'est à la Louvière. Donc en fait le tu vois maintenant à cause de toi j'ai du mal aussi à le dire. Le Winter Geek Festival, en fait c'est un duo de festivals. Il y a le Summer Geek Festival et le Winter Geek Festival. Ça existe depuis, j'ai mes petites notes ici, hein, depuis 2018. Ils organisent ça. Ils ont organisé 5 événements depuis 2018 entre Winter et Summer. Et ils ont quand même à peu près 12 000 visiteurs par an, hein, entre le Winter et le Summer. Donc c'est plutôt pas mal pour un petit festival. On s'entend bien. Hein, on n'est pas sur la Comic Con, la Medinazia ou des choses comme ça. Hein. Et en fait, c'est un festival qui est vraiment... qui n'est pas que comics, qui n'est pas que manga, qui est machin. Ils vont vraiment toucher à tout. Beaucoup aux jeux vidéo. Du coup, je pense que ça pourrait t'intéresser. Je ne sais pas si tu y as été ou si tu comptes y aller.
On avait été invité à la toute première édition de Summer qui se déroulait à Mons encore à l'époque. Mais je pense que ça a tellement grandi que ça n'a plus rien à voir.
Voilà. Donc là, ils ont du jeu vidéo, du cosplay. Il y a un marché de Noël geek avec de l'artisanat, des choses comme ça, des producteurs, des créateurs. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Il y a pas mal de conférences, il y a pas mal d'intervenants. On va dire un petit peu le point culminant. Ce qui est assez chouette, c'est qu'ils font la part belle aux acteurs de doublage. Comédien de doublage. Alors, on a. La première, c'est Adeline Chetail. Voilà. Qui est très active dans les séries, dans les films, etc. Elle a été pendant au moins une vingtaine de films la voix française de Vanessa Hudgens depuis les High School Musical pour ceux qui ont suivi ça. On parlait d'Invincible. Elle est la voix française de Duplicate. dans Invincible. Elle a fait une voix dans la série Vision de Star Wars, entre autres. Mais là où elle va être, on va dire, le plus reconnue pour les geeks du festival, c'est qu'elle est aussi et surtout la voix de Zelda depuis 2018 dans les jeux Zelda. Elle est aussi la voix de Ellie dans The Last of Us. Ah. Voilà, mais elle a aussi fait Far Cry, elle a fait Final Fantasy, Call of Duty, donc elle est très active, dans les jeux vidéo. Et enfin, on va dire la plus... je ne veux pas dévaloriser ses collègues, mais la plus populaire des invités, c'est Dorothée Pousseau, qui est clairement la voix de Margot Robbie depuis un paquet d'années.
2017, hein, je dirais.
Voilà. Après, elle a aussi... alors moi, étant fan de Star Wars, elle a quand même été la voix de la fille de Carrie Fisher dans les derniers Star Wars. Ça, c'est mon petit kiff. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a fait dans Kid Paddle, elle a fait dans Martin Mystère, elle a fait Didi dans Les Aventures de Dexter, les Totally Spies, dans la série Lucifer, elle joue la médecin légiste de la série Lucifer. Enfin voilà, elle est extrêmement active dans le monde du doublage. Elle a une voix vraiment unique.
Et oui, qui est reconnaissable, qui est assez reconnaissable, mais quand elle veut, parce qu'elle peut très bien gommer ça. Mais elle a ce petit côté...
Tout à fait. Ouais. Pour les plus jeunes, elle est Vanellope dans Les Mondes de Ralph.
Ouais, juste.
J'ai vu récemment en interview qu'elle disait que c'était le doublage qu'elle avait préféré faire et qui, voilà, qui lui correspondait le plus.
Alors, c'est aussi Mortel Adèle. C'est elle qui chante Mortel Adèle.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment les plus jeunes, mais alors si vous n'avez pas d'enfant, vous ne connaissez pas Mortel Adèle, mais attention, c'est du...
et alors, la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent, donc soit aujourd'hui, soit samedi, quand l'émission sera diffusée sur Radio Panique, donc vous avez encore
dimanche.
On sera présent d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que les dédicaces sont gratuites. Pour une fois, donc ça change de toutes les autres conventions où on paye pour 250 balles pour aller faire une dédicace de Jean-Claude Van Damme.
250 balles, mais jamais je paierai 250 balles.
Voilà. ici, écoute, je vais te dire, moi j'ai été au Star Wars Celebration à Londres, donc qui est la convention officielle Star Wars organisée par Disney, etc., par Lucasfilm, etc. Si tu voulais le combo photo. Dédicace, Hayden Christensen et Ewan McGregor, tu arrivais à peu près à 900 livres. Voilà, c'est un budget.
Est-ce que vous avez déjà payé pour une dédicace, vous? Alors, je parle pas d'acheter le bouquin, parce que bon, à la limite, là, il y a quelque part, c'est un peu normal, ça fait tourner la boutique. Je ne
paierais pas 350 $ pour Jean-Claude Van Damme.
Moi, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait pour un acteur de la série Mandalorian qui joue Paz Vizsla. C'était vraiment pas cher, que le gars en plus était tout seul et que malheureusement il avait peu de personnes qui venaient pour lui. Et puis il était super sympa, j'avais discuté avec lui. Par contre, j'ai reçu une affiche de lui, etc. Enfin, c'est pas juste, j'ai amené mon brol et j'ai fait Danny Trejo parce que je suis.
Machete.
Voilà, je suis trop fan de lui. Mais pareil, je crois que j'ai payé 50 € pour avoir la dédicace et la photo. Donc, mais ouais, mettre 800 balles, non. Jamais.
Et toi, Fabien?
Donc ici, en tout cas, c'est gratuit. Voilà, si vous avez un DVD de Barbie et que vous voulez faire signer par la voix française de Barbie, c'est l'occasion. Et voilà, moi personnellement, ce sera ma première fois à ce festival.
Même, pareil. Bien. Et toi, Fabien, t'as déjà payé pour une dédicace ou pas?
Non, je pense pas que je le ferai non plus. Donc voilà, désolé.
Peut-être que
Bowie revenait du monde où il est maintenant, peut-être que je paierais un peu, mais bon, voilà.
Ouais, peut-être, effectivement, par pour exemple, David Bowie, ouais. on va terminer l'émission, mais c'est quoi est-ce que vous avez des dédicaces déjà, mais la dédicace dont vous êtes le plus fier, le truc, vous dites, ah ouais, ça, j'ai... Ouais. C'est quoi?
Moi, j'ai pas des masses de dédicaces, mais j'étais content de rencontrer Olivier de Rivière. Je sais pas si vous voyez de qui il s'agit. c'est un compositeur de musique de jeux vidéo. Il fait énormément de musique. Okay. Ouais, tu vois, je pense, je te vois opiner.
Oui.
De Vampire, par exemple, hein, je vous connaissais peut-être. Voilà, je ne reviens plus sur le nom. Voilà. Bref, un jeu très connu. Et donc, je l'ai vu à la Gamescom, j'ai acheté son disque et je l'ai fait dédicacer par lui. C'est une des seules dédicaces que j'ai de ma vie, je crois. Donc, j'en suis content. Voilà.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre de demander à quelqu'un, vous pourriez me signer.
Mais bon, il était en même sur temps, place et j'ai acheté son disque là sur place. Je l'aurais quand même acheté.
Quand même.
Enfin, je ne me souviens plus de cette série que vous connaissez sans doute. Bref, ça va me revenir.
Et toi, Corentin, le truc, bah, tu l'as dit sans doute.
Oui, j'en ai quelques-unes. J'en ai payé que deux, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, donc c'est cool. J'ai quand même dédicace de l'acteur principal et du réalisateur du Visiteur du Futur. Dans la bande dessinée Visiteur du Futur, donc ça, je suis assez content. Récemment, j'ai fait dédicacer mon coffret Kaamelott par Pascal Vincent, un des Robins des Bois qui joue l'homme goujon dans Kaamelott. Donc ouais, c'est des trucs assez c'est des trucs sympas, mais c'est plus fait. La rencontre en fait, moi qui m'amuse.
Ah, complètement. Oui,
par exemple aller acheter une photo dédicacée à quelqu'un qui leur vend, là je vois pas du tout l'intérêt, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est à la rigueur, c'est le souvenir de la rencontre. Mm-hmm. Et s'il y a pas de signature mais qu'il y a un souvenir, c'est plus important, donc voilà. Mais chacun son...
Et toi, Baudouin ?
Bah écoute, moi, c'est Benny B qui a signé sur mon livre de Chuck Norris.
collector, attention.
C'est collector. Hein. Voilà, sur mon livre de Chuck Norris, que je n'ai toujours pas fini de lire. Mais du coup, ça fait 3 ans.
T'as jusqu'à l'année prochaine pour revenir à Johnny Tournedisc.
Ouais, voilà, Johnny Tournedisc.
Juste terminer par rapport au Winter Geek Festival aussi, pour les gens qui seraient intéressés. Mmh. C'est vraiment pas cher. C'est 10€ l'entrée en pré-vente. Donc vous pouvez encore
acheter. N'hésitez pas, vous pouvez y aller. Et c'est
voilà, il y a des prix famille, il y a des prix de groupe. Donc il y a même des prix de groupe. Hein. Je crois que si vous passez, 5 adultes, vous venez avec des potes. Vous venez avec des potes, ça vous coûte 45 balles pour 5 adultes. Donc c'est vraiment rien du tout. Je trouve. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine.
Bah
donc,
cool. Et personne ne
vous fera un petit débrief.
Dédicace. C'est ça, hein, franchement.
Pardon ?
Personne ne me demande si j'ai une dédicace.
Et toi, Damien ?
Non, mais parce que j'en ai deux quand même. J'ai John McTiernan au bif sur une affiche de Octobre Rouge, attention. Donc John McTiernan, c'est celui qui a fait Piège de Cristal, qui a fait Octobre Rouge et autres. Bah, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs de cinéma d'action. Et si ce n'est pas un réalisateur tout court, à chaque fois, moi, je regarde Die Hard 3, la scène où il traverse Central Park, c'est de la magie. Voilà. Eh bien, merci Baudouin, merci Corentin, merci Fabien d'avoir participé à l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à tous les auditeurs de Radio Panique. Vous n'êtes pas seuls, plein de gens écoutent Radio Panique. C'est une super radio qui a fêté ses 40 ans il n'y a pas longtemps. On y était, hein, Baudouin. Et puis, on se retrouve bientôt, dans un mois à peu près, pour de nouvelles aventures.
Hein. Et 2024 nous... Elle nous prépare déjà plein de belles choses.
Ouais, plein de belles choses. Allez,
vite passer, hein.
À la prochaine.